ça me fait vraiment plaisir d'être ici dans ce colloque sur l'ALENA 20 ans après. Lorsqu'on a commencé à parler de ce colloque il y a quelques temps, ça fait un an presque, on avait dit « Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut parler de l'ALENA ?» Faire un ultime bilan. Et finalement, je trouve qu'après toutes les hypothèses qu'on a pu faire, il y a encore de très belles choses à dire sur l'ALENA. En tout cas, moi, j'ai écouté avec intérêt toutes les présentations, très riches. Et en fait, je pense que ce que je constate, c'est que l'ANAC n'a peut-être pas changé récemment, mais le contexte a changé et ça renouvelle finalement, pas l'ANAC, mais l'ALENA. Hein, donc, le contexte d'intégration en Amérique du Nord a véritablement changé et ça nous porte à avoir un nouveau regard sur ce qui se passe dans cette région. Aussi, je remercie Marlene Weiss d'être venue, d'avoir fait... je vais pouvoir faire beaucoup d'économies dans ma présentation, et aussi Sylvain Zigny. Et effectivement, Frédéric Miché, avec qui je contemple l'idée de faire une analyse exhaustive comparative hein, entre ce qui se négocie de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi... entre les deux rives, il y a aussi quelque chose qui se négocie, et d'où la comparaison, ce qui rend la comparaison beaucoup plus intéressante à mon avis. Alors, je reprends dans mon titre « Comparer des pommes et des oranges ». Je crois que Stephen Clarkson sourira à ce titre, parce que dans le fond, quand on regarde l'UE, l'Union européenne, le modèle d'intégration européen, ce que mes collègues ont appelé l'intégration régionale, le régionalisme de première génération, et l'ALENA, ce modèle de deuxième génération. Bon, Christian Deblocq va parler d'un troisième. On peut dire que, justement, on parle de pommes et d'oranges. Mais est-ce qu'on n'est pas, justement, en train de faire négocier, finalement, l'hybridation ou la transculturation des cultures d'affaires et des protections sociales? Sait-on jamais? Mais en tout cas, l'idée de négocier un accord avec une clause développement durable ou un chapitre sur le travail m'amène à me poser cette question-là après avoir fait des analyses comparatives entre les différentes approches nationales qui cherchent à lier le commerce et le travail, c'est-à-dire les normes, les règles du commerce avec la protection des normes du travail. Alors, je vais commencer, je vais aller assez rapidement. Là, ça, c'est pour faire plaisir à Dorval. C'est sûr que les salaires n'ont pas suivi la productivité, et je pense que c'est lié justement à toute cette mondialisation, ce transnationalisme qui fait en sorte qu'il y a un pouvoir de négociation qui n'est pas adéquat aux défis des négociations actuelles et à la mise en place de normes aussi pour simplement défendre les droits, non seulement les droits des travailleurs, mais aussi leurs conditions de vie et les salaires qu'ils ramassent. Lorsque on regarde l'OIT, et là je commence à parler de l'OIT dans cette présentation, puisque lorsqu'on parle des clauses sociales, il y a toujours cette concurrence entre les clauses sociales et le travail de l'OIT. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que le commerce devrait être séparé, il ne faut pas faire converser ces domaines. Mais en même temps, force est de reconnaître, je crois que même l'OIT présentement a reconnu en quelque sorte la limite de ce qu'on pourrait dire l'ancien régime international en matière de régulation du travail, puisque c'est un régime qui est fondamentalement fondé sur l'application des lois nationales à un modèle économique qui est de plus en plus transnational. Alors, on voit ici les conventions internationales hein, qui sont non contraignantes pour l'entreprise. Naturellement, tous les États membres sont dans l'obligation de les faire appliquer, mais lorsque les États sont en concurrence les uns contre les autres pour attirer, pour gagner des parts de marché ou attirer de l'investissement, on peut se poser des questions sur non seulement leur manque de volonté, mais les incitatifs qui peuvent forcer les actions, les mesures en ce sens. On a travaillé depuis 2006 un projet qui s'appelle Gouvernance globale du travail, qui a justement non pas à chercher à voir ce qui pourrait remplacer le régime de l'OIT, mais voir un peu les trajectoires nouvelles pour justement adapter l'ancien régime, si on veut dire quelles sont les réponses possibles de l'OIT à la transnationalisation de l'économie. D'où la question, comment on peut transnationaliser ce régime international, donc passe par des conventions et des lois nationales, etc. Tout un système qui a bien fonctionné quand même au 20e siècle. Et ensuite, des constellations qui sont nouvelles, notamment celle de lier les accords de commerce ou les règles de l'investissement. Il y a beaucoup d'ailleurs d'investissements, d'accords d'investissement qui incluent quelques prescriptions en termes de normes du travail. Ça commence à émerger. Donc, toute cette constellation qui est plus des normes, comment dire, de marché global qui passe directement par les entreprises. Ma collègue Michéa tout à l'heure a parlé de RSE. C'est dans ce domaine. Donc, on tente d'établir des règles qui s'adressent directement aux entreprises, souvent par les entreprises elles-mêmes, mais aussi on voit que les pays et même les régions comme l'UE dont tu as parlé tout à l'heure, mais aussi les organisations internationales regardent ce domaine, cette émergence normative, comme étant peut-être une opportunité ou en tout cas des réponses à considérer. Tout ça, bon, c'est pour combler un vide qui est difficilement à combler. Donc, je ne veux pas, par ma présentation, signifier que je considère que lier le commerce et le travail est une réponse. Je considère que Marley West a très bien fait pour discréditer cette voie, mais de façon peut-être plus positive, je dirais qu'il y a trois positions. On peut dire non aux accords commerciaux. Bon, c'est facile, mais il y a un désavantage, c'est-à-dire que ça nous laisse un peu sans réponse. On peut dire oui, parce que de toute façon, une clause sociale ne peut pas faire de mal. Mais bon, en même temps, le désavantage, c'est que si on ne la prend pas bien au sérieux, comme disait Mme Coronado, où sont les activistes pour enclencher les mécanismes? En quelque sorte, il faut faire les plaintes, etc. Marley, tu as dit justement que les acteurs ont commencé à découvrir un peu l'activisme de la clause, l'activer. On voit qu'il y a des périodes, bon, si Sylvain Zini avait pu le dire, il y a eu des vagues aussi de plaintes, et on voit qu'il y a un engouement qui n'est pas nécessairement constant à ce niveau. Il y a aussi la position que Dorval, bon, peut-être la clause ne peut pas faire de mal, peut-être qu'elle peut faire du mal, justement. C'est un risque, hein, donc il y a des risques d'individualisation du droit du travail, etc. Je pense que ça, il faut considérer. Il y a aussi la position 3, donc oui, ces clauses doivent exister, on peut les rendre plus efficaces, et c'est un peu, je dirais, le pari que je veux faire aujourd'hui et dans mon travail, c'est-à-dire de voir un peu cette idée de construire à travers ce lien quelque chose qui va dépasser justement l'ANACT ou les clauses sociale qu'on a pu étudier, et finalement voir que c'est le début finalement d'une hybridation de mesures qui cherchent à créer un droit international du travail. Donc là, je vais passer vite, simplement pour dire qu'au niveau multilatéral, on n'a pas fait grand-chose, et l'OIT et l'OMC ont décidé de faire jusqu'à maintenant qu'une étude conjointe qui dresse un peu un portrait général, mais sans vraiment attaquer la question. Il y a la voie bilatérale qu'on a abordée. Je dois dire, je voudrais simplement, on a vu tout ça dans d'autres présentations, il y a plusieurs autres pays, donc il y avait là, en 2005 la création d'un groupe de pays, donc il y a les amis du libre-échange, mais il y a aussi les amis de la clause sociale, et ce groupe d'amis était constitué du Canada, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Suisse, de la Norvège, si je me souviens bien, il y avait la Nouvelle-Zélande, et l'idée c'était de justement dire, bon, ça, la clause sociale n'intéresse peut-être pas beaucoup, mais disons, est-ce qu'on peut justement essayer entre nous de discuter des voies à prendre pour faire avancer, du moins à travers nos accords, quelque chose qui serait cohérent, justement. Peut-être pas, on n'est pas prêt à faire une clause multilatérale, mais éventuellement, est-ce qu'on ne peut pas justement éviter d'aller chacun dans nos directions, hein, pour reprendre la question de Christian Debloch, où va-t-on? Donc, si on ne va pas à la même place, au moins essayons de créer un discours un peu commun. Donc, je vais passer sur l'ANACT. Je dirais quelques mots. On a dit plusieurs choses sur l'ANACT, mais pour moi, ce que je voudrais mettre l'emphase, sur quoi je voudrais mettre l'emphase, c'est le fait, justement, de la non-remise en question de la souveraineté. C'est une contrainte majeure. On ne peut pas faire des miracles si on ne remet pas en cause la souveraineté des États. Marley en a parlé tout à l'heure de façon de dépasser ceci, mais ce n'est pas demain qu'on va pouvoir le faire. C'est sûr que aussi ça se limite à certaines questions. Il faut prouver qu'il y a aussi, il y a non seulement une violation, mais il faut qu'il y ait un dommage sur le commerce. Donc ça limite vraiment le type de protection sociale qu'on peut aller chercher à travers ce lien. Le droit des pays d'établir des normes, bon, ça veut dire qu'il y a un différentiel qui perdure et qui reste finalement dans une mise en concurrence des systèmes. Donc, on n'en sort pas vraiment. L'accord prévoit que des domaines normatifs qui sont assujettis à simplement certains domaines normatifs assujettis à la surveillance tripartite dans l'ANACT et qui peuvent mener à des règlements des différends. Bon, c'est sûr, on a parlé de cette participation donc par les communications du public. Je pense que c'est un élément, c'est toujours fascinant de voir le regard des autres sur nous, c'est-à-dire une Européenne qui vient et qui voit cet élément qui peut-être peut décevoir de ce côté-ci de l'Atlantique, mais en quelque sorte, c'est peut-être quelque chose qui peut être, je ne dirais pas empowering, mais quelque chose dans ce sens. En tout cas, c'était intéressant de t'entendre parler de cette manière de ces communications. Donc, est-ce que c'est un modèle, l'ANACT? Frédéric, tu en as parlé tout à l'heure. Je me suis posé la question. Parce que, dans le fond, depuis... Et non, la réponse, elle est là. J'ai répondu non. C'est un échec. Sylvain en a parlé tout à l'heure. Bon, on ne peut pas dire qu'on peut jeter l'ANACT aux poubelles. Mais en même temps, c'est sûr que tu as vu les institutions qui sont désertées. Hein, c'était vacancy. Hein, il y a les postes qui sont vacants. Les résultats n'ont pas été très, très concluants. Et surtout, l'enthousiasme ne règne pas par les activistes. Où sont les activistes qui veulent porter cette clause et la défendre? Donc, oui, ici, surtout, c'est que les trois partenaires ont continué à aller dans leur propre voie. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une concertation, même s'il y a eu ce comité, ces amis de la clause sociale qui a été formé en 2005. Le Canada a continué à développer son modèle, tandis que les États-Unis ont développé son modèle et le Mexique, bon, a finalement arrêté d'en parler. Il y a aussi donc une très grande divergence des approches, même si on peut quand même, je pense, parler d'un modèle nord-américain qu'on pourrait distinguer d'un modèle européen. Mais est-ce qu'on peut comparer les pommes et les oranges et en sachant aussi que les pommes et les oranges sont aussi pas très définies? Alors, il y a une problématique de notre protocole de recherche qu'on veut enclencher, c'est-à-dire est-ce qu'on peut comparer quelque chose qui n'est pas véritablement défini et qui est mouvant? Et je vais revenir à cette problématique lorsqu'on va parler du TPP, bien on est en train de renégocier de facto un acte, hein, le modèle. Donc, il y a eu la modernisation des accords. Je vais en reparler. Est-ce qu'il me reste quelques minutes, M. Leblanc? Non, pas beaucoup. Alors, depuis... Donc, juste pour simplement dire quelques mots sur les convergences, il y a eu, donc, des lois nationales et des 11 principes, un accord sur les instruments, la normativité de l'OIT. Donc, cette concurrence entre la clause sociale dans les accords et l'OIT, je crois, s'est estompée. Tous les accords parlent de la déclaration de l'OIT, au moins, et du travail décent dans plusieurs cas. Il y a une remise, ce qui est nouveau, une remise en question des lois. Donc, ce n'est pas simplement les lois qui doivent être appliquées efficacement en concordance avec les normes internationales, mais on peut aussi remettre en question, dans certains des accords, notamment ceux du Canada, la formulation des lois. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, mais qui est une possibilité. Il y a toujours la clause de non-dérogation, la coopération, aide technique et parfois des sanctions et pénalités financières, qui sont souvent, les pénalités sont liées à l'assistance technique. Et ça, c'est vraiment dans le modèle nord-américain qu'on le retrouve, pas beaucoup dans le modèle européen. C'est ce qu'on constate justement, c'est-à-dire le modèle européen est beaucoup plus légaliste et fondé sur la coopération volontaire avec des mécanismes quand même qui sont assez efficaces à ce niveau, ambitieux. Mais et le modèle nord-américain est beaucoup plus jurisprudentiel sur des cas violations et punitions. Donc ici, on peut voir un peu un résumé des comparaisons qu'on a pu faire avec Christian Leblanc. On a comparé le modèle du Pérou. Donc on voit dans les deux cas, on a les normes OIT et droit du travailleur internationalement reconnu. On a la question des suivis, on a la question des sanctions commerciales et financières. Donc lorsqu'on avait comparé cet accord, au moins on avait pu dire qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les deux, même si les négociateurs canadiens et américains vont dire que c'est... Ils n'ont pas du tout de concertation, c'est-à-dire ils ont leur modèle et il n'y a pas vraiment une convergence explicite. Alors ici, je pourrais partager avec vous, c'est une comparaison au niveau des obligations des résolutions des litiges dans l'accord Canada-Pérou. Ce qui est plus intéressant, c'est que depuis, il y a eu plusieurs autres négociations. Et dans le modèle américain, on voit qu'il y a une recherche de parité des mécanismes de règlement des différends. Naturellement, c'est certain qu'on ne pourra pas égaler les mécanismes investisseurs, État, etc. Mais c'est quand même un objectif qui est mentionné. Et aussi, au niveau de la Corée, si vous allez voir, je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais Avec l'accord de la Corée, on voit qu'il y a des nouveautés qui sont introduites. Et pour avoir parlé au négociateur canadien il y a 3 jours pour lui demander bon, qu'est-ce qu'il y avait de neuf sur le soleil avec les clauses sociales, il m'a dit qu'ils avaient été très surpris de jusqu'où ils pouvaient aller avec la Corée. Donc le Canada-Corée sera très intéressant à étudier lorsque ça sera terminé, parce que selon les négociations actuelles, il y a des nouveautés. Ils ont été très surpris, très étonnés de voir comment ils pourraient négocier des dispositions tout à fait innovatrices. Donc le Canada est aussi en train de moderniser certains des accords qui ne contenaient pas des normes. Négocier avec le Japon. Mais ce qui est plus important, c'est le TPP. Bon, je vais revenir ici peut-être. Non, je vais quand même m'attarder une minute ici, si tu me permets, Christian. Par rapport au Canada-UE, on avait basé cette analyse sur... vous vous souvenez, il y avait l'accord qui était sorti en 2010... certaines fuites des négociations. Et on avait pu voir ici, vous voyez, certains éléments comparatifs. On peut voir que dans le cadre de l'Union européenne, on a une approche, comme disait Frédéric, je pense que là, on est d'accord là-dessus, une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire qui lie justement... pas la culture, mais en tout cas les éléments du développement durable, donc l'environnement et le social, et dans un processus aussi qui est beaucoup plus inclusif, d'un processus de discussion avec la société civile, hein, donc une espèce de comité. Donc il n'y a pas véritablement, c'est pas des plaintes, mais c'est comme une espèce de society forum qui ferait des consultations sur comment justement l'application de ces accords fonctionne, c'est-à-dire dans un esprit de coopération volontaire et surtout dans le respect des obligations nationales envers les normes internationales. Donc, il n'y a pas de remise en cause de cette souveraineté, beaucoup moins forte en tout cas que du côté nord-américain, à mon sens. Alors, je pense que vous avez eu le temps peut-être de lire un peu certains éléments de comparaison. Mais la grande distinction, c'est au niveau des sanctions, j'ai compris, Christian, c'est au niveau des sanctions, c'est-à-dire les sanctions financières d'un côté et de l'autre côté, une approche très basée sur la coopération, hein, donc, et plus proche aussi des normes de l'OIT et du travail de l'OIT. Je voudrais simplement arriver à la dernière slide. Donc, Christian avait sorti les 3D, moi j'ai sorti les 3C. Parce que, bon, je voudrais revenir simplement sur l'idée que lorsque j'ai parlé au négociateur canadien il y a 3 jours, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en train de moderniser tous les accords. Est-ce que vous allez moderniser la NACT? Et il m'a dit que, de toute manière, avec le TPP, c'est un petit peu ça qu'on va voir. Et donc, qu'il n'y a pas nécessairement d'organisation du débat sur quelle va être la suite de la NACT, parce que finalement on va avoir 2 accords qui vont s'appliquer en Amérique du Nord, qui va s'appeler la NACT, qui va rester, mais qui déçoit de toute façon, qui va peut-être tomber en désuétude, voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec le TPP. Mais là, ça pose toutes les questions ensuite de l'interconnexion entre ce TPP qui serait comme une espèce de rénovation à plusieurs de la NACT avec cet accord, ces 2 accords sont en train de se négocier. J'ai pas eu le temps d'aller sur le slide qui présentait l'agenda des États-Unis sur le travail avec l'Union européenne, mais je pense que ça sera un triangle qui sera intéressant à suivre sur le plan normatif. Hein, lorsque notre ami Jean-François tout à l'heure parlait de transculturalité, alors là, on a sur un mapping normatif tout à fait intéressant. Donc, les 3 hypothèses, est-ce qu'il va y avoir concurrence entre les modèles? Est-ce qu'il va y avoir connexion, une mise en réseau ou une hybridation des modèles, une compétition? Et là, ça va se jouer sur la définition de cette concurrence ou de cette coopération régulatoire, comme en parlait notre ami Marley West tout à l'heure. Et ça, c'est une boîte de Pandore, effectivement.
Merci.